Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 12. Et le titre que nous pouvons donner à cette étude, c'est « Je suis la résurrection et la vie ». Un terrible malentendu nous sépare de Dieu au sujet de la mort. Nous le soupçonnons d'indifférence à notre égard, comme s'il prenait sur nous une revanche. Lors de funérailles, il n'est pas rare d'entendre pourquoi Dieu l'a-t-il laissé mourir? Pourquoi lui, si juste et si bon? Les faire part de décès titre souvent « Dieu a rappelé à lui son serviteur ». Dans les pays chrétiens, cette expression « rappeler à lui » revêt toute sa signification. Quelles que soient les circonstances de la disparition d'un être cher, maladie, que ça soit la vieillesse ou accident, Dieu lui ouvre ses bras. Mais dans notre monde moderne, cette expression évoque une intolérable convenance entre Dieu et la mort. Voyez-vous, la mort nous est présentée comme le résultat d'une complicité entre Satan et l'humanité. Dieu a vraiment créé l'homme incorruptible et il a fait une image de sa propre nature. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Bien sûr, la mort biologique est programmée dans notre bagage cellulaire. Mais si l'homme ne s'était pas détourné de Dieu, le passage vers l'autre vie aurait été vécu paisiblement dans la certitude de la résurrection. Pour beaucoup de nos contemporains, à la mort, tout est mort. Nous sommes les enfants du hasard, et après la mort, eh bien, nous sommes donc, si nous n'avions pas existé un peu, ça serait incroyable. Donc, voyez-vous, je crois que selon Colossiens chapitre 1, verset 18, si je me rappelle bien, il est dit « Nous sommes les enfants du hasard, et après la mort, nous serons comme si nous n'avions jamais ou pas existé. » Voyez-vous, le Christ premier-né d'entre les morts demeure un instant au pouvoir de l'adversaire. On rappelle souvent qu'il a transpiré du sang pendant sa nuit de prière à Gethsémani. Est-ce la perspective de sa mort imminente qui aurait provoqué ce symptôme? Il me semble plutôt que l'angoisse de Jésus-Christ reposait sur l'écart extrême entre l'amour qu'il éprouvait pour les hommes et leur mépris à son égard. Jésus-Christ pleure devant le tombeau de Lazare, souvenez-vous. Sensible donc à la mort de cet ami et à la tristesse de ses sœurs Marthe et Marie. C'est écrit dans Saint Jean chapitre 11. Il est donc là devant une manifestation du mal, une victoire provisoire mais bien réelle de cet adversaire contre lequel une lutte sans merci est engagé. Il pleure alors comme il pleurera devant la ville de Jérusalem en pensant qu'elle sera prochainement détruite de fond en comble. C'est également écrit dans Saint Luc, chapitre 19, versets 41 à 44. Ces larmes ne prouvent pas que Jésus ait réellement douté de la résurrection, car pourquoi aurait-il dit quelques minutes auparavant « Je suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi, fût-il même mort, vivra » Saint Jean, chapitre 10, verset 25. Jésus a envisagé sa propre mort avec sérénité. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais auprès de mon Père. Évangile de Saint Jean, chapitre 14, verset 28. Chers amis, lorsque la chenille, par exemple, lorsque la chenille s'endort dans son soi-disant cercueil, lorsque elle devient cette chrysalide inerte, les membres de sa famille, si on peut dire, s'ils avaient notre conscience, seraient à la fête. Elle aurait bientôt des ailes multicolores et diaprées. Elle ne rampera plus sur le sol. Mon entourage, mes amis, mes lectures, tout me dit et me répète. La mort est monstrueuse. La mort est carrément sordide. Depuis mon enfance, on me la montre hideuse avec sa grimace fourbe de crâne squelettique, sa faux bien aiguisée et sa cape noire. Elle vient en douce, elle vient en traître et surtout par derrière. Elle nous nargue avec son sablier. Comment vais-je faire pour dire à ma foi en la résurrection sans passer pour un naïf, sans passer pour un imbécile ou un demeuré? Oui, comment vais-je faire pour dire ma foi profonde dans cette résurrection? Voyez-vous, pour les hindous, ce n'est pas l'existence de Dieu qui fait problème, mais c'est celle du monde. Ce sont les hommes qui ne sont pas tout à fait réels. Nombreux sont ceux qui disent « Je ne comprends pas pourquoi j'existe. Je me réveille chaque matin avec étonnement. » Chers amis, c'est un autre Jésus-Christ qui m'a donné l'existence. Et cet autre s'est révélé à moi. C'est Jésus-Christ, comme ne pouvant pas me la reprendre. Donc, vous avez bien compris que cet autre, c'est le Seigneur. Il veut seulement que cette vie s'accomplisse en une dimension plus haute, plus véridique et plus réelle. Voyez-vous, j'ai résolu de prendre la mort du bon côté, mais je n'oublie pas pour autant les terribles angoisses éprouvées par certains agonisants. Il faut les voir dans les hôpitaux. Et je crains que par ces angoisses se cache une peur de Dieu et évidemment de son jugement. Là encore, une fausse image du Créateur provoque ce surcroît de souffrance. Mon juge à moi, c'est le père du prodigue qui guettait le retour de son enfant, souvenez-vous. Et ce n'est pas le père fouettard. Je ne veux pas non plus oublier que la mort est un mystère, évidemment, qui nous dépasse complètement. Lorsque on aime un être et que soudain il n'est plus sous nos yeux qu'un corps inerte et froid. L'intensité de souffrance peut atteindre des proportions inimaginables personnellement. J'ai presque pété les plombs quand ma femme est morte par négligence médicale. Donc, chers amis, je sais cela, évidemment maintenant, par expérience, et non par simplement oui-dire. Le néant est un concept inconcevable. Mais si réellement notre condition humaine avait été de disparaître totalement, pourquoi alors une telle déchirure devant cette disparition? Cette intolérance viscérale envers le néant n'est-elle pas la trace d'une conviction oubliée? Au Mexique et au cimetière de Pascuaro, paysans et pêcheurs allument des milliers de bougies pour fêter leur mort. Et à Bali, avez-vous vu, ou moins peut-être en film, des obsèques à Bali? Quelle somptueuse fête, quelle somptuosité de funérailles! Des jeunes gens font une musique qui s'entend à des kilomètres. Des jeunes filles dansent, un immense cortège où vibrent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Pourquoi ces peuples célèbrent-ils des enterrements si gais? N'auraient-ils aucune sensibilité? Mais ils savent, eux, que la mort est une naissance, en quelque sorte. Ils font confiance au prince de la vie. Oui, voyez-vous, chers amis, ce n'est pas la disparition qu'ils fêtent en pompe si peu funèbre. C'est l'autre versant, la vie qui n'en finira plus jamais de nous émouvoir et de nous surprendre avec ses splendeurs infinies. Notre monde devient morbide depuis qu'il a rompu l'alliance avec ses sources invisibles. Aujourd'hui, c'est le dernier tabou. Nous pouvons parler de tout, sauf de la mort. Aujourd'hui, c'est le triomphe de la mort nue, la mort bête, la mort disparition, la mort fin de tout, la mort gâchant la vie. Écoutez par exemple cette jeune fille de 16 ans, ça vaut la peine. Elle dit « Malheureusement, je ne pouvais pas vous donner le ton de sa voix. » Voyez-vous, je ne peux pas imiter cette jeune fille, évidemment, ni la force de son cri. Elle venait de se droguer, c'est ce qu'elle a dit, pendant plus de 2 ans. Nous sommes, dit-elle, une génération de déçus. Il n'y a pas d'éclairage à notre déception. Alors, on prend la fuite. J'en ai marre d'essayer de donner un sens à une vie qui n'en a pas. Et quant à vivre avec ceux qui sont saints, qui sont béats, qui trouvent que tout va bien, eh bien c'est encore pire. Ils n'ont pas de cœur, ces gens-là. Je sais bien que l'avenir est du côté des chrétiens. L'avenir est à l'amour tel que vous le concevez, mais je me sens très abandonné parce que je ne crois pas en Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point on se sent délaissé quand on ne croit pas en Dieu. J'y crois pas et je ne pourrai jamais y croire, c'est comme ça. Et sa voix s'enflait. Son cri d'amour envers un dieu inconnu devenait carrément pathétique. Mais vous n'avez pas compris qu'on va tous mourir. Tout est marqué de mort. Tous les gestes qu'on fait, c'est ça le terme, c'est ça le but. On peut lire le mot « mort » absolument partout. Et il n'y a rien après, absolument rien. Alors, ou bien on se dit « mourons, gâchons tout, car il n'y a rien à perdre ». Ou bien on se dépêche d'être heureux, on veut tout et tout de suite. Et si on se dépêche, c'est parce que il y a évidemment à la fin la mort. Mais s'il n'y a pas la mort, s'il y a Dieu, et là, elle s'est mise en colère, et comment ? Oui, vous les chrétiens, vous devriez péter de joie. Moi, je ne comprends pas. Vous avez une petite euphorie bien satisfaite, mais c'est pas tellement la joie, ça. Un Dieu qui donnerait un sens à la vie, ça devrait changer tout, absolument tout. Depuis plus d'un siècle, l'athéisme fait planer sur nos vies l'ombre d'une mort sans lendemain. Le dernier mot, le fin mot de l'existence, c'est simplement la mort. Sortis du néant, nous retournerions au néant. Que pourraient bien signifier alors ces cris d'amour et de chagrin entre deux silences ? Ces ébauches, ces efforts, ces projets qui n'ont pas abouti, tous ces rêves inachevés, tous ces liens humains qu'il a fallu interrompre. Comment croire que c'était vraiment important, puisque la mort vient et efface tout pour toujours ? Comment faire pour prendre réellement au sérieux ces routes qui ne conduisent nulle part ? Est-ce donc cela ? Vivre, marcher vers l'anéantissement de tout ce que nous avons vécu ? L'idée que certains croyants se font de l'éternité détournait André Malraux de la foi chrétienne. Une éternité figée, où l'âme devenue zombie erre dans les remords ou la nostalgie, est en effet plus fade que le néant. Une survie sans risque, sans aventure, sans amour, quel désert ! Je préférerais mille fois être agnostique plutôt que de croire en une vie éternelle moins belle, moins intense, moins chaleureuse que cette vie ici. Autrefois, la croyance en une autre vie était scandaleusement utilisée par les puissants pour anesthésier la révolte des humiliés. Mais maintenant, l'élimination de cette croyance ne mène-t-elle pas à d'autres excès ? Tels que l'injustice, elle donne aux malheureux, dépossédés de l'espérance d'une autre vie, un besoin grandissant d'écrabouiller le genre humain. À quoi bon alors se gêner pour liquider des otages en risquant sa propre peau ? Si otages et terroristes ne sont de toute façon que des cadavres en sursis, un peu plus tôt, un peu plus tard, pourquoi pas une mort héroïque dans l'ivresse du combat plutôt qu'un vieillissement stérile ? Chers amis, le progrès a rallongé la vie humaine de moitié en un seul siècle. Des savants nous promettent, sans rire, un supplément de vie jusqu'à 110 ans. Un marché fantastique de cellules fraîches est engagé, une course contre la mort. Mais que faire de ce sursis, où tout vient vous rappeler que vous êtes sur la mauvaise pente, mise à la retraite et mis au rancard. Une femme ou un homme de 50 ans, elle dit ceci. Aujourd'hui, les humains, c'est comme les voitures. Quand ça a fini de servir, ça va à la casse. Si cette femme n'était pas dépossédée de l'espérance, elle saurait, que ça continue, que ça avance, que son accomplissement humain est passé à un nouveau stade plus riche, plus dense et plus joyeux. Chez les hindous, le temps de la vieillesse est celui de l'extrême sagesse. Ce moment annonce et prépare une plus belle aurore. Et c'est pourquoi les vieux sages de l'Inde ont ce regard doux, noble et serein. En ce qui me concerne, le regard serein, c'est plutôt, malheureusement, c'est mon petit péché, quand je peux goûter un peu de chocolat. Trêve de plaisanterie, mes chers amis, vu de notre côté, la séparation d'avec un être cher est un arrangement déchirant. C'est carrément un arrachement. On peut le dire. C'est comme ça, si on arrachait une personne qu'on aime de nos bras. Une part de nous-mêmes s'en va avec elle ou avec lui. Nous sommes donc tellement tissés de l'amour des autres, mais vu de son côté à lui ou à elle, Jésus-Christ est ce triste, oui, est ce triste d'échapper enfin aux limites de notre condition terrestre si on a Jésus-Christ dans notre cœur. Est ce triste d'être un jour délivré à jamais de toute angoisse, de toute inquiétude, de tout péché, de toute maladie et de toute crainte de la mort. Voyez-vous, ma Bible fut souvent ouverte sur une page de l'Apocalypse au chapitre 21, versets 1 à 4. Là, il est dit « Je vis un ciel nouveau, j'ai donc vu un ciel nouveau, et une terre nouvelle. Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus, de pleurs, de cris et de peines, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Le Dieu de tendresse lui-même vient essuyer nos larmes, est-ce pas merveilleux ? Ce jour-là, nous comprendrons tout, les pleurs du rejet, de l'abandon, les larmes causées par nos propres lâchetés, notre fragilité et notre bêtise. Fini tout cela, plus jamais de trop, plus jamais se sentir de trop, c'est pas mal, plus jamais humilié. Enfin, pouvoir aimer dans le vrai sens et enfin pouvoir s'émerveiller de l'autre sans jalousie, sans rancune, sans culpabilité, sans peur de se séparer un jour. L'amour seul, débarrassé de tout ce qui a pu le défigurer, ni larmes, ni peine, ni cris et surtout ni mort. Donc un univers où l'on ira de surprise en surprise, où l'on aura un cœur constamment renouvelé aux sources de la joie, où l'on sera capable de s'enchanter des moindres beautés de ce monde nouveau. Chers amis, s'il vous plaît, ne nous traitez pas de rêveurs, vous qui ne partagez pas notre foi. Cette foi repose sur des faits. Les apôtres auraient-ils clamé leur joie aux quatre coins du monde, gréco-romain, s'ils n'avaient pas revu vivant celui dont la mort les avait laissés anéantis? Si le Christ n'était pas sorti du tombeau, cette petite secte de naïfs, disciples d'un crucifié de droit commun, ne serait-elle pas éteinte au bout de quelques années? Or, voyez-vous, ils sont affrontés en riant les tortures les plus barbares, sûrs de ce Christ qui leur dirait bientôt « Entre dans la plénitude de ma joie ». Lorsque l'écartèlement de ses bras déchirait ses poumons, Jésus-Christ trouva encore la force de dire à un condamné à mort et voisin de poteau, voisin d'une autre croix, d'exécution carrément, il lui dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Je répète, aujourd'hui même, eh bien, tu seras avec moi. Ne crains rien, c'est la vérité, c'est une réalité. Tu seras avec moi dans le paradis. C'est écrit dans Saint Luc, au chapitre 23, verset 43. Tu vas donc cesser à tout jamais d'être ce pantin, ce jouet de ses désirs et de ses violences. C'est terminé. Tu n'auras plus jamais mal. Le bonheur dont tu avais si faim, ce bonheur que tu cherchais jusque dans la boue, tu vas le goûter à profusion. On demandait un jour à un révérend anglais « Que penseriez-vous si au moment de votre mort, vous découvririez qu'il n'y a absolument rien après ?» Il répondit « Oh, probablement, évidemment, il a répondu, vous le comprendrez bien, sous une forme de boutade. Il a dit « Je serai bien attrapé, mais je ne regretterai jamais d'avoir cru à l'amour de Dieu. » J'aime ces propos, mais tels quels, ils sont incomplets. Voyez-vous, Dieu nous a créés, nous, a donné la vie et au long de 15, beaucoup plus, de très nombreux siècles de révélations, il nous répète qu'il nous a fait pour tisser avec nous un lien très profond, un lien durable et intense, le lien le plus fort et le plus passionné. Oserons-nous un jour, pour de bon, croire à ce qu'il ne cesse de nous redire quand il dit « Je veux t'épouser ». Écoutez-le quand il dit « D'un amour éternel, je t'ai aimé. C'est pourquoi je t'ai attiré. Ton époux sera ton créateur. Tu seras pour moi l'objet d'une éternelle fierté. » C'est écrit dans Ésaïe, chapitre 54. Je répète, d'un amour éternel, je t'ai aimé. C'est pas beau cela ? Et c'est pourquoi je t'ai attiré à moi. ton époux sera ton créateur, et tu seras pour moi l'objet d'une éternelle fierté. Isaïe 54, versets 5 à 8, ainsi que le chapitre 60, verset 15. Pourrait-il un jour renoncer à son projet? Pourrait-il un jour cesser de nous aimer? Pensez un peu, oui, pensez cela de lui, chers amis. Ou peut-être, vous pouvez penser, je préfère dire, je lui fais confiance. Répétons cela. Pourrait-il un jour cesser de nous aimer? Jamais. Pensez cela de lui, ou peut-être, je crois que nous pourrions préférer ceci. Rappelez-vous ces mots. Je préfère de dire que je lui fais confiance, car Dieu est amour. Rappelons-nous toujours de cela. Voyez-vous, je suis passé, comme chacun d'entre vous, par un premier stade d'existence dans le ventre de ma mère. L'observation scientifique de ce qui s'est passé, en nous pendant ces 9 mois, de notre conception à notre naissance, serait évidemment passionnante si on pouvait la décrire. Nous découvririons tout ce dont nous avions besoin pour après, tout ce qui nous était nécessaire pour cette autre vie qui nous attendait pour cet au-delà. Nous nous inventions des yeux pour voir, alors que nous vivions dans l'obscurité. Nous nous fabriquions des poumons pour respirer, et il n'y avait pas d'air. Nous nous inventions des mains pour saisir, et il n'y avait rien à prendre. Nous nous fabriquions une langue pour parler, et nous étions seuls. Étonnante aventure, non? Avions-nous la moindre idée qu'une autre vie allait nous attendre? Absolument pas, aucune idée. Or, nous étions en train de nous préparer à une autre existence. Alors, chers amis, pourquoi serait-ce déprécier le stage terrestre de croire qu'il est la préparation d'une autre aventure capable de donner sens à notre soif d'infini? Je crois de toutes mes forces que nous sommes aujourd'hui en train de façonner des sens nouveaux qui nous permettront de nous émerveiller de réalités actuellement inconcevables, bien au-delà des joies terrestres les plus stupéfiantes. Oui, elle serait drôle, l'interview imaginaire d'un fœtus conscient et doué de paroles. Savez-vous qu'il vous faudra un jour quitter ce monde, que vous le voulez ou pas, pour aller dans l'au-delà? Vous découvrirez le soleil, les fleurs, les oiseaux et surtout le visage de votre mère. Oui, une autre vie, bien plus vivante, vous attend. Vous dites peut-être, oh, je ne comprends rien du tout à tout ce charabia. D'abord, je suis très bien là où je suis. Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Je sais qu'il me faudra quitter ce monde un jour, qui est le mien, et vous êtes bien cruel de me le rappeler, c'est pas très gentil. Rien ne me prouve qu'il y a quelque chose après. D'ailleurs, personne n'est jamais revenu. Mais cette voix qui vous parle de l'extérieur est-elle bien réelle? Vient-elle vraiment de Dieu? Une chose est certaine. il a fallu naître, c'est-à-dire mourir à trop peu pour accéder à davantage. Ce que nous appelons de ce mot insupportable, la mort, n'est pas le mot de la fin ou le fin mot des choses. Ce n'est que la dernière mutation de l'aventure humaine. Le visage de la mort n'est pas celui d'un squelette armé d'une faux. Elle ressemble au rideau d'un berceau que la mère écarte pour embrasser son nouveau-né. Il est dit dans les Saintes Écritures, « Heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur Jésus-Christ » Apocalypse 14, verset 13. Die Offenbarung en allemand, n'est-ce pas? Eh bien, mes propos seraient intolérables s'ils étaient le fruit d'une autosuggestion. Or, ils sont le fruit d'une grâce offerte à tous et que je me suis contenté d'accueillir malgré le terrorisme matérialiste de mon époque et malgré cette espèce de consensus défaitiste. Oui, trop beau pour être vrai, pensez-vous. Vous allez croire que je blasphème la vie parce que la mort m'apparaît avec ce visage de printemps en fête. Je ne peux oublier les violentes accusations de Friedrich Nietzsche. Rêver, rêver d'un autre monde que celui-ci n'aurait aucun sens s'il n'existait pas en nous un puissant instinct de calomnie, d'avilissement, de suspicion à l'égard de la vie. Nous nous vengeons de la vie par la fantasmagorie d'une vie meilleure. Les concepts d'un au-delà de paradis ont été créés dans le but de déprécier le seul monde qui existe. Non, je vous assure, mon enthousiasme pour les multiples facettes de ce monde n'a jamais été diminué par ma foi, mais bien au contraire, l'amour des êtres me gonfle le cœur à le faire craquer. Mais si les avant-goûts terrestres de nos rencontres humaines, de nos amitiés, sont déjà si prestigieux, que direz-vous de ces mêmes liens sans ombre aucune? Si les prémices nous coupent déjà le souffle, qu'en sera-t-il du bonheur dans sa plénitude? Si le temps a un tel charme, qu'en sera-t-il de l'éternité? Si nous n'aimions pas la vie, notre amour envers celui qui en est la source serait bien ingrat. Mais plus ou davantage j'aime la vie, plus je trouve hideux les comportements qui la défigurent et qui, plus que Nietzsche, a dénoncé les tares grotesques de la comédie humaine. Le Christ, voyez-vous, nous présente comme un assassinat le fait de juger son prochain ou de le laisser dans l'humiliation. Matthieu 5, verset 21. Cela veut dire que tous les jours, nous tuons inconsciemment. Nous préférons garder le sentiment de culpabilité pour des broutilles qui n'abîment personne. Or moi, je danse de joie, je pleure de joie, je suis ivre de joie à la pensée qu'il n'en sera pas toujours ainsi. lorsque je me laisse aller à apprivoiser la mort, ce n'est pas à elle en réalité que je pense. Je pense à ce que pourra être un jour la vie dépouillée de tout ce qui la tue. Ô Dieu, tu nous le dis avec force et certitude. J'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Écris ces paroles, car elles sont certaines et vraies. Apocalypse 21, versets 1 à 5. Une vie sans solitude, sans angoisse, sans chômage, sans torture, une vie sans séparation, sans abandon, une vie sans cancer et sans diffamation. Oui, écris ces paroles, car elles sont certaines et vraies. Comment est-ce donc possible? Oui, plus jamais l'homme, la femme sera asservi par l'homme. Plus jamais le syndicaliste traîné dans la boue, sali de mille rumeurs infâmes par les médias officiels. Plus jamais voir traité comme de la vermine celui qui pense autrement. Plus jamais les procès d'intention qui se glissent jusqu'au beau milieu du peuple des sauvés. Plus jamais le père prenant la nuit son fils pour un voleur et lui déchargeant son fusil de chasse en plein visage, c'est arrivé pas si longtemps que cela. Plus jamais la bombe cachée dans un bouquet de roses qui explose dans une école maternelle. C'est terrible, cela. Plus jamais ces raffinements de sadisme, de cruauté et de haine. Plus jamais l'inquisition de l'Église, ni celle du parti, ni celle de l'islam intégriste. Plus jamais le silence complice et le mot « c'est pas grave » pour commenter la délation. Plus jamais le luxe le plus fracassant sous des yeux d'affamés. Plus jamais les boat people qui essayent de fuir la misère et la famine, qui sont violés, rançonnés, égorgés dans le silence. Oui, plus jamais le péché. Plus jamais le déchirement de la séparation d'un être très cher, et plus jamais la mort. Vraiment, un jour, nous allons vivre. Écris ces paroles, car elles sont certaines et vraies. Chers amis, nous allons terminer ici cette étude, et j'ai reçu et quelques paroles par l'Esprit Saint que je vais essayer de vous transmettre avant de terminer ensemble par la prière. Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus-Christ est avec vous. Allez de l'avant sans crainte aucune. Santé et vigueur, paix, bonheur et joie, ce sont là les dons qu'il vous réserve. Ils sont à vous si seulement vous les attendez. La nature a horreur du vide. C'est vrai. Spirituellement également. Quand vous vous videz de vous-même, de vos craintes, de vos soucis, les biens spirituels après lesquels vous soupiriez viennent aussitôt occuper la place restée libre. Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Soyez donc sans crainte. Ne vous laissez pas ébranler. C'est au secours de celui qui se noie que se jette le sauveteur. Il ne s'occupe pas du bon nageur qui peut se tirer d'affaire tout seul. Et quelle autre joie peut se comparer à celle qui accueille un sauveteur? Pour intervenir, eh bien, Jésus-Christ attend souvent le plus fort de l'orage. Ainsi en fut-il sur le lac autrefois avec ses disciples. Il lui aurait été facile de réprimer la première vague, d'imposer silence au premier coup de vent. Mais alors, que fut-il advenu de la leçon? Ses disciples n'auraient jamais connu en lui l'ami tendre et proche des jours mauvais, celui en qui l'on trouve son refuge et son salut. Ses disciples, ne l'oubliez pas, s'imaginaient qu'il les avait oubliés dans son sommeil. Mais quelle erreur! Puisse cette pensée vous rassurer et vous remplir d'une foi tranquille, puisse-t-elle vous établir dans une attitude de joyeuse dépendance et d'attente confiante. Ne vous abandonnez jamais à la peur. Il vous appartient d'être joyeux. Oui, vous êtes appelé à connaître la joie débordante de celui qui a été sauvé. Chers amis, nous allons terminer maintenant ensemble par la prière. Seigneur Dieu Saint, qui es par ta parole et ton esprit, qui nous appelle à la vigilance et à la fidélité, toi qui nous connais tous et qui sondes nos reins et nos cœurs, nous t'en prions, accorde-nous la grâce de ton Esprit Saint, afin qu'acceptant ton appel et ton avertissement, nous nous jugions nous-mêmes à sa lumière. Préserve-nous aussi de sombrer dans la somnolence spirituelle et maintiens-nous bien éveillés. Rends-nous véridiques et sincères devant toi. Donne-nous de prendre notre piété au sérieux et garde-nous d'une suffisance mensongère et fais-nous découvrir ce que tu exiges de nous. Aide-nous à conserver notre ardeur, à ne pas trahir notre premier amour, à nous conduire dans la souffrance avec fidélité et sans crainte. Jette un regard sur notre Église et garde-la de manquer l'heure de la grâce offerte, que son flambeau ne soit pas renversé, qu'elle-même ne soit pas laissée déserte comme les églises auxquelles s'adressait un jour ton message. Oui, Seigneur, donne à la chrétienté tout entière, donne à chacun des chrétiens la grâce d'écouter et d'entendre ce que l'Esprit Saint dit aux Églises. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime, et ça c'est une réalité. Et nous vous aimons également, croyez-moi, de tout notre cœur. Soyez bénis et merci pour l'intérêt que vous portez pour ses études, parfois pas toujours très faciles. Et vous pouvez réécouter une étude plusieurs fois, et tout à coup, ce qui n'était pas bien compris va s'éclairer comme un soleil qui se lève le matin. Et à bientôt à nouveau, et je vous salue dans l'amour de Jésus-Christ. Au revoir, mes très chers amis.